enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Deuxième chapitre. Et nous allons débuter ce matin une série de messages intitulés « N'aie pas peur ». Comment vaincre les craintes, les angoisses et les phobies modernes. S'il y a quelques-uns des amis tech qui viendraient ramasser les feuilles qui sont ici, ça va m'aider parce que je sens venir l'incident. Je sens venir le moment où je mets le pied là-dessus, je glisse et j'atterris dans les bras de Carole dans la première rangée. Et je ressens qu'il y a quand même une partie du public qui aimerait ça, assister à ça ce matin. Mais moi, je vais plutôt m'abstenir. Alors, Luc, chapitre 12, ensemble, c'est une nouvelle série pendant les prochaines semaines. Elle va être entièrement disponible par audio sur notre site Internet pour la recommander à des amis. Et nous espérons très bientôt être capables aussi de vous présenter les séries de messages par vidéo. Combien on hâte à ce jour, on va pouvoir voir les clips vidéo sur Internet, les recommandations des amis, c'est ça à lequel on travaille. Et aussi, si dans les prochaines semaines et mois, on va vous l'annoncer plus officiellement pendant l'été, au début du mois de septembre aussi, mais il y a vraiment tout un travail qui est en train de se faire pour notre site Internet. Nous sommes très heureux, il y a plus de 156 000 visites qui ont pris place sur notre site Internet, mais on veut voir ce chiffre-là doubler dans les prochaines années. On a toute une équipe qui travaille là-dessus. Maintenant, on a quelqu'un, Mathieu Laïs, qui était engagé, un webmaster qui nous aide à cet égard et qui va nous aider à développer le site Internet. Et on croit que cette série N'aie pas peur, comment vaincre les craintes, comment vaincre les peurs, comment vaincre les phobies, est extrêmement à propos en ce printemps de l'année 2009. Lorsqu'on regarde à des couvertures de magazines comme le Times, il y a une couverture après l'autre qui adresse ce sujet. Il y a des couvertures qui vont apparaître à l'écran, The New Hard Times, les nouveaux temps difficiles, un article, une page couverture sur récession et anxiété. Comment survivre à l'économie maigre, surviving the lean economy, panique et angoisse. Pourquoi nous inquiétons? Why we worry about the wrong things? Pourquoi nous inquiétons à propos des mauvaises choses? C'est un article entier sur le burn-out, l'épuisement professionnel, les phobies et un autre magazine qui disait carrément be worried, la page couverture, be very worried. Soyez inquiets, soyez vraiment inquiets, terrorisme, récession et réchauffement planétaire. Et lorsqu'on entre dans une librairie, lorsqu'on entre dans une librairie québécoise parmi les 50 best-sellers en ce moment, il y a des murs entiers de livres comme « Comment se débarrasser de l'anxiété et de la dépression »,« L'anxiété, les meilleurs outils pour la vaincre »,« Petites angoisses et grosses phobies »,« Les troubles anxieux chez les enfants »,« La peur des autres »,« Tract, timidité et phobie sociale ». C'est partout autour de nous et j'ai même découvert qu'il y avait un dictionnaire médical des phobies avec des centaines de peurs et de phobies. Il y en a que nous connaissons, il y en a des très sérieuses, il y en a aussi des très surprenantes, il y en a qui sont à la limite presque amusantes, il y a plein de phobies qui sont là, des acrophobies, la peur des hauteurs, il y en a, à la mesure que je vais les dire, vous allez vous reconnaître, je vais dire ça, c'est moi un peu, agoraphobie, la peur des lieux publics, brontophobie, la peur des orages, xénophobie, la peur de l'étranger, arachrophobie, c'est la peur des araignées, et suriphobie, c'est la peur des souris. Alors, pour tester qui était quoi, ne vous inquiétez pas, on est très dynamique ici. En ce moment, nous relâchons une cinquantaine de souris et d'araignées partout dans l'Assemblée pour voir qui est quoi. La peur des... Je sais que c'est pas seulement les femmes. Il y a des hommes, des gros costauds de 250 livres en ce moment qui n'aiment pas du tout ce genre de bébite-là. Mon épouse est particulièrement... C'est une femme forte de l'Évangile, mais elle a une intolérance absolue pour tout ce qui est bébite. J'ai découvert ça lorsqu'on était nouveau mariés. Je suis revenu un soir et on avait un petit appartement sur le bord d'un... un condo qui était un petit appart qui était au sous-sol sur le bord d'un champ. Et puis lorsque je suis arrivé, on est entré dans la maison, une soirée tranquille, et tout à coup, j'ai vu ma femme littéralement commencer à courir partout dans la maison, et je n'avais jamais vu une femme faire ça. Elle a fait un saut en hauteur, elle a battu des records, puis elle s'est retrouvée sur le dessus du frigidaire. Elle était sur le dessus du réfrigérateur. Je n'avais jamais vu un geste aussi fluide. Elle a battu des records canadiens parce que... Et ma femme est une pacifique, une amour. Elle aime les animaux, mais il y a un instinct meurtrier en elle Israël que je ne connaissais pas, il y avait un petit mulot qui se promenait dans la cuisine. Et était « Tue-le! » avec une grosse voix à partir du... Moi, je voulais juste le prendre, le remettre dans le champ. Quelques temps plus tard, j'étais évangéliste dans un camp d'été et je prêchais du lundi au dimanche, puis elle travaillait, puis elle arrivait le vendredi soir. Et puis c'était dans les Laurentides, certains d'entre vous se souvenez du camp Montfort. Et il m'avait mis dans une petite cabine, puis le premier soir, ça m'avait un petit peu surpris parce que quand je me couchais, le premier soir, la minute que tu fermais la lumière, que tu bougeais plus, t'entendais... C'était comme des courses qu'il y avait. Il y avait des rats qui couraient partout dans les murs. Et moi, je me suis habitué à m'endormir assez tranquillement. Et je savais que le vendredi soir, mon épouse venait me rejoindre. Elle venait dormir avec moi pour le week-end. Et je me suis dit, il va falloir qu'on s'endorme vite. Il va falloir qu'elle s'endorme très rapidement. Et je n'ai pas dit un mot. Et le vendredi soir, la réunion a fini tard. On a une super réunion. On a joué avec des jeunes après. On a soupé avec des leaders. On s'est couché vers 1h du matin. Elle était à 2h15 de notre appartement. On habitait à Sainte-Julie. On était à 2h15 de route. Et puis, on s'est couché. Et puis là, bonne nuit, chérie. Je me suis dit, ça s'en vient. D'un coup, les lumières. On ferme les lumières, bonne nuit chérie, d'un coup ça commence, les rats commencent à courir partout. Ma femme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai dit, j'ai pas dit des rats, parce que des rats ça aurait été trop violent. J'ai dit, c'est des rongeurs, des sont là. À 1h30, 2h du matin, elle s'est levée, habillée, mis son manteau, pris l'auto, puis elle a dit, on se revoit dimanche. Elle est partie dormir dans son lit. Et combien est-ce qu'il y a de femmes qui la comprennent? Dites amen dans ce lit ce matin. Ça, c'est la phobie des souris ou la phobie des araignées. Il y a plusieurs autres phobies. Aérophobie, la peur de voler, la peur des avions. Claustrophobie, peur des espaces confinés. Dentophobie, peur des dentistes. Xanthophobie, c'est bizarre, là, mais c'est xanthophobie, ça doit être pour... c'est la peur de la couleur jaune. C'est dans le dictionnaire des phobies. Mon épouse dirait que moi, j'ai une autre sorte de phobie. J'ai la peur de toutes les autres couleurs, excepté noir, gris et bleu marine. Ça semble être ça qui est la mienne. Il y en a qui sont présents ici. Il y en a certaines de ces peurs-là qui sont en succession. Peut-être que vous ne saviez pas que anuctaphobie, c'est la peur de rester célibataire. Il y a des gens qui ont cette peur-là. Mais gamophobie, c'est la peur du mariage. Et parfois, ça te frappe en succession. Tu avais peur de jamais te marier, puis un coup, tu es marié, tu as peur de ton mariage. Combien d'entre vous comprenez de quoi je parle? Et panthérophobie, c'est la peur de la belle-mère. Je dirais pas un mot là-dessus, mais c'est dans le champ. C'est vraiment dans le dictionnaire des phobies. Il y en a un qui n'est pas là, je vais l'avouer, je l'ai ajouté moi-même. J'appelle ça la coupe Stanleyophobie. Et c'est la peur que le Canadien de Montréal ne gagnera plus jamais la coupe Stanley de notre vivant. Il y en a qui sont directement reliés à ce que nous faisons ici ce matin. Ça, c'est une peur qui me frappe, moi, tous les dimanches matin vers 5h15. Glossophobie, la peur de parler en public. Ecclésiophobie, il y en a qui sont atteints de ça. C'est la peur des églises, la peur de l'église. Puis il y en a beaucoup d'entre vous que si vous êtes frappés de ça, surtout quand il fait super beau le dimanche matin ou que vous êtes couché tard la veille. Et homilophobie, c'est la peur des sermons, la peur des messages. Alors, j'espère que personne ici ce matin avait peur des sermons. Et si vous avez peur des sermons, vous êtes à la bonne place parce que Dieu a un message de libération et un message de consolation. Dites à la personne près de vous, « Aie pas peur, ça fera pas mal. » Dites ça à quelqu'un près de vous. Et est-ce qu'on peut applaudir le message de Dieu ensemble? Dieu a un message pour nous, quelles que soient les phobies. Est-ce que vous saviez que la Bible adresse spécifiquement les phobies? Dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu, car ce n'est pas un esprit de peur. Certaines versions disent un esprit de timidité, mais le mot qui est dans le grec, c'est le mot phobos, d'où on tire le mot phobie. Dieu ne nous a pas une déclaration importante qui a besoin de pénétrer dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. L'héritage, la portion, la promesse, la vie pour un croyant n'est pas une vie de phobos. Et le mot phobos dans le grec est très, très imagé. C'est un mot qui voulait dire littéralement courir effrayé. Running scared. Et là, le Seigneur dit, si tu as, il y a des choses dans ta vie qui t'ont fait peur, dont tu t'es sauvé, dont tu as eu peur, t'ont angoissé toute ta vie, moi, j'offre à chaque être humain, non pas un esprit de phobos, mais j'offre au contraire un esprit de force et d'amour, et le mot et de sagesse. Sophira norismos dans le grec qui veut dire de maîtrise de soi, de discipline de soi, de solidité. Et Dieu dit à tous ceux qui sont aux prises ou qui connaissaient quelqu'un qui est aux prises avec des peurs qu'il a une promesse de paix pour chaque enfant de Dieu. Que son esprit peut nous transformer. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans les prochaines semaines et mois. Dans les prochaines semaines, fin avril et pendant le mois de mai, n'aie pas peur dans les prochaines semaines, ça va être un miroir. Voici qui reflète beaucoup et plusieurs de nos réalités, plusieurs d'entre nous qui sont ici et qui vont entendre ce message par l'Internet et la radio. Voici ce que nous allons regarder ensemble dans les prochaines semaines, différentes peurs que nous allons adresser et comment la Bible nous appelle et nous instruit et nous enseigne comment les vaincre. La peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de l'impuissance, que je suis pris dans une situation, je ne suis pas capable de m'en sortir, je ne peux rien faire. La peur de l'échec, des pertes financières, de la faillite. La peur de la récession, la peur de la perte de l'emploi. La peur de l'engagement, du pardon, la peur de faire confiance parce que vous avez été blessé. Nous allons regarder ensemble et approcher et aborder à la lumière de la parole de Dieu la peur de la solitude, de la vieillesse, de la maladie, la peur de la mort, la peur de la critique, du rejet, la peur de l'opinion des autres. Et même la peur spirituelle, la peur de l'Église, la peur de la foi, des gens qui ont été brûlés, des gens qui ont été blessés, qui ont peur de s'engager à nouveau envers la foi ou envers Dieu. Nous allons apprendre ensemble les sources de la peur, de l'anxiété, des phobies, des angoisses, comment confronter et vaincre nos peurs, comment les pensées sont le champ de bataille de l'inquiétude et comment nous pouvons maîtriser et renouveler nos pensées. Nous allons apprendre ensemble comment briser les liens et patterns qui sont enracinés depuis des décennies et parfois même des générations, que des choses qui ont été là de père en fils dans votre famille et dans votre propre vie depuis des décennies. Nous allons vous apprendre, nous allons apprendre ensemble et vivre ensemble comment on peut briser ces liens. Comment s'approprier les promesses, le plan, la puissance de paix offerte par Dieu à ses enfants pour combattre et vaincre les craintes qui sont destructives. Et on va aussi apprendre, et ça c'est quelque chose qui est important pour chaque croyant ici, nous allons aussi apprendre et découvrir qu'il y a des craintes qui sont positives, protectrices, et qu'il faut développer, selon la sagesse parfaite de Dieu, les pensées de Christ qu'il désire nous communiquer. Le christianisme, ce n'est pas un utopisme, ce n'est pas un nirvana où les chrétiens sont déconnectés du monde, nous, on a peur de rien là. Nous savons, lorsqu'on élève un enfant, par exemple, que ça fait partie de son apprentissage d'apprendre ce de quoi il doit avoir peur et ce de quoi il ne doit pas avoir peur. Et le plan de Dieu est de nous enseigner, et c'est assez saisissant et c'est profond cette pensée, que nous sommes appelés en tant que chrétiens non seulement à accepter Jésus comme notre Seigneur et venir à l'Église, mais à être renouvelés dans nos pensées et à avoir les pensées de Christ. D'être remplis des pensées de Christ. En Philippiens 2, il dit « Ayez en vous les pensées, pronéo, ayez en vous la compréhension, la perspective, ayez en vous la connaissance, la sagesse, que vous en veniez la maturité chrétienne. C'est que j'en viens à avoir peur de ce que je dois avoir peur et refuser d'avoir peur de ce que je ne dois pas avoir peur. » Lorsqu'on parle de la pensée de Christ, Ésaïe nous décrit cette pensée de Christ. Lorsqu'il parle de Jésus, il dit « Celui qui naîtra, Ésaïe 11, et de toutes les nations trouveront l'espoir en lui. » Et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence. C'est un esprit de conseil et de force. Mais c'est un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que la maturité chrétienne est de marcher dans la connaissance de Dieu et dans la bonne, la saine respect, révérence et crainte de Dieu. Et en ce jour-là, l'Éternel remplira la terre et deviendra une bannière pour tous les peuples de toutes les nations qui se tourneront vers lui. L'Évangile de Marc, Jésus a même dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. » Jésus a dit, « Il y a des choses que vous ne devez jamais craindre, mais je vous montrerai qui vous devez craindre. » Je dirais même de cette façon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas assez peur. Il y a des choses qui devraient vous faire beaucoup plus peur. Et vous n'avez pas assez peur. Vous n'avez pas assez peur, pas assez de crainte. Vous n'avez pas assez crainte du péché. Pas assez crainte de comment le péché peut détruire, comment il détruit, comment est-ce qu'il t'avilit. Pas assez crainte de certaines habitudes en ce moment avec lesquelles tu joues, que ce soit alcool, drogue, mensonge, fraude. Pas assez crainte de l'adultère, alors que tu te permets des regards, des conversations, des choses. Pas assez crainte de la négligence, de comment la négligence peut détruire des vies. Pas assez crainte de la procrastination, de toujours remettre à plus tard. Pas assez crainte de la paresse. pas assez craindre de la négligence. Il y a des hommes qui sont ici en ce moment. Tu devrais craindre plus comment la négligence de ton couple, de ton épouse, de ta famille ou la négligence du temps avec tes enfants est grave et comment elle est porteuse d'un danger possible. Combien comprennent avec moi ce matin que la sagesse, c'est pas de marcher, j'ai peur de rien, j'aurais peur de rien, je suis dans un nirvana chrétien. La sagesse, c'est d'être rempli de l'Esprit de Christ, de connaissance, et ce que je ne dois pas avoir peur, je n'en aurai pas peur, mais je vais marcher avec une sainte crainte, une révérence devant Dieu. Je vais être alerte, je vais être sobre, et je vais savoir différencier ce qui est bien et ce qui est mal, et marcher pour m'emparer. La crainte, même, je dirais ceci, une crainte, une sainte crainte de perdre, la crainte de faire mal. La crainte de décevoir dans le sens de blesser ou de faire mal. Il y a quelque chose d'extrêmement sain, saïen, positif et puissant. Il y a quelque chose de protecteur à un homme qui se lève à chaque matin et qui dit, par la grâce de Dieu, tu vas me remplir, Seigneur, de ta force et de ton amour et de ta pureté. Je veux être alerte parce que je crains. Je ne veux pas faire du mal à ma famille. Je ne veux pas faire du mal aux gens autour de moi. Je ne veux pas négliger les miens. Et je ne veux pas faire du mal à ton cœur, à toi, parce que j'ai une crainte de toi aussi. Et je sais que je vais répondre de ma vie devant toi et que je vais rendre compte devant toi. Alors je crains le mal, je crains le péché et je crains Dieu. Et avec cela, je marche et il me remplit de sa force pour m'emparer de tout ce qu'il y a pour lui. J'ai peur. Je ne veux pas faire d'allusion de hockey, mais j'aimerais vous dire ceci. J'ai peur, moi, de perdre. J'ai peur de perdre, pas dans les choses comme une game de hockey, mais j'ai une sainte peur de perdre ce que Dieu avait pour moi. Je veux rien perdre dans le match de la vie. Je veux rien perdre de ma destinée. Je veux rien perdre de mon héritage. Je veux rien perdre de tout ce que le royaume de Dieu a pour moi. Comment est-ce qu'il y en a ici qui disent, Seigneur, je veux pas perdre, je crains de perdre, je veux te craindre toi et je veux gagner tout ce que tu as pour moi. Voulez-vous dire amen et applaudir avec moi la sainte crainte. N'aie pas peur, il y a 365 fois l'expression n'aie pas peur dans la Bible. Ne crains pas, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas, ou ne continue pas à t'inquiéter, ou ne te tourmente pas, ou ne t'inquiète plus dans la parole de Dieu. Et ça nous fait sourire de voir ces 365 différentes nuances de l'expression, comme si à chaque jour, pour chaque jour de l'année, Dieu dit, j'ai un message de paix pour toi. Il y a 12 fois par Jésus lui-même dans les évangiles, et dans notre texte de ce matin, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, nous allons voir 3 fois dans notre texte de ce matin, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas angoissés, ne soyez pas inquiets, ne craignez pas, car c'est le plaisir de Dieu de vous donner le royaume. Nous allons lire ensemble notre texte dans l'évangile de Luc, le 12e chapitre. On lit ensemble Luc chapitre 12, puis on va aller à la diapo 19 dans un instant. Mais Luc chapitre 12, le texte va apparaître à l'écran. Mais suivez avec moi dans vos Bibles, dans Luc 12 et le verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. » La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Considérez, les corbeaux ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangez ou ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens ou ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ce monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt ou d'abord ou premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Si on regarde ensemble, on commence, après, dans les prochaines semaines, nous allons adresser des peurs et craintes spécifiques, mais un message de fondation cette semaine et dimanche matin prochain. Nous allons regarder ensemble comment vaincre une fondation par Christ lui-même, comment vaincre les peurs, les angoisses et les phobies modernes. Dans la diapo 19, 3 clés. Il faut renouveler notre révélation de qui Dieu est. Dimanche prochain, on va regarder ça. Il faut reconnaître nos peurs et refuser de les laisser nous dominer. Dimanche matin prochain, nous allons vous apprendre comment y faire face, comment les reconnaître et comment entrer sur le chemin de la victoire face aux peurs. Mais ce matin, la fondation, on va étudier plusieurs autres principes dans les prochaines semaines et mois, mais ils sont conditionnels et reposent sur cette fondation. Il faut rechercher Dieu et répandre nos cœurs devant lui afin de recevoir sa paix. Pour rechercher Dieu et répandre nos cœurs devant lui afin de recevoir sa paix. Les mots-clés du texte que nous venons de lire, Jésus a dit, n'ayez, ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, n'ayez pas peur pour la vie. Et dans le texte, il adresse deux grands types de peurs générales. Il a des peurs pour les choses physiques de la vie et les peurs qu'on pourrait dire qui sont morales, qui sont humaines, qui sont spirituelles même, alors qu'au verset 32, il nous adresse comme un petit troupeau, il nous parle du royaume de Dieu. Il parle des peurs qui sont celles communes à tous les hommes, pour la vie, pour le vêtement, pour mon travail, pour mon emploi, pour la nourriture, pour le budget, pour l'hypothèque, les peurs qui sont au niveau matériel, mais il parle aussi de peurs qui sont au niveau des relations humaines, au niveau du spirituel, au niveau même du royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont ici que c'est vraiment le côté de la vie qui amène des peurs, mais il y en a d'autres que c'est des enracinements à cause de choses relationnelles et même des peurs face au royaume de Dieu. Des peurs de ce que je vais m'emparer de ce que Dieu a pour moi, ce que je vais être, ce que Dieu voulait que je sois. Et c'est avec beaucoup de tendresse et il prend l'image d'un petit troupeau, une image de fragilité, une image de vulnérabilité. Il nous adresse, il dit, ne t'inquiète pas, ne panique pas, n'aie pas peur. Ne te tourmente pas pour la vie et ne te tourmente pas, petit troupeau, très tendre. Une image de brebis qui sont sans défense par elles-mêmes, car c'est la passion. C'est le plaisir de Dieu de te donner le royaume. Que j'ai un royaume pour toi, un esprit pour toi. N'aie pas peur, mon plaisir est de te faire découvrir comment vaincre tes peurs. Quelqu'un devrait dire amen. Et il commence avec une clé essentielle dans le texte que nous venons de lire en faisant un contraste de deux poursuites, de deux passions, de deux battements de cœur. Et la libération des peurs est dans cette première étape où il faut rechercher Dieu et répandre nos cœurs devant lui afin de recevoir sa paix. Il dit littéralement, car la vie, ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, n'ayez pas peur pour la vie. Et au verset 23, car la vie est plus que la nourriture, que le corps, que le vêtement. Dieu nourrit, Dieu revêt, Dieu fait ces choses, mais Dieu nourrit, Dieu revêt, mais ces choses-là, Dieu sait que vous en avez besoin. Mais ne soyez pas de ceux dont la passion unique est vers les choses matérielles. Il y a toute cette dimension où Dieu dit, je sais de quoi vous avez besoin. Il y a plus de 1000 versets dans la Bible qui parlent de Dieu qui est préoccupé par les choses matérielles de nos vies aussi, par notre prospérité matérielle. Mais il adresse une poursuite obsessive que lorsque nous nous y abandonnons, qui est très présente dans le monde dans lequel nous vivons, et cette poursuite obsessive pour tout ce qui n'est pas spirituel, pour tout ce... Il y a des millions de Québécois qui vivent une vie unidimensionnelle. Leur vie entière est à la poursuite de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est autour d'eux, de tout ce qui est séculier et matériel. Et il y a là-dedans, et c'est pour ça que Jésus dit dans le texte, car toutes ces choses-là, ce sont les païens, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ce monde qui les recherchent. Et le mot « recherche », épizétéo, veut dire une poursuivre inlassablement, pourchasser de toutes ses forces, une poursuite unique. Et Jésus dit dans ce texte, si tu tombes dans le panneau, si tu embarques dans le roulement, si tu es pris par le train de ce monde où la vie c'est juste une poursuite de ce qui est matériel, de ce qui est humain, de ce qui est tangible matériellement au détriment de ta recherche de Dieu, c'est un chemin qui mène à l'inquiétude, qui mène à l'angoisse, qui mène à toujours t'inquiéter et tout ton état d'âme devient conditionnel à quel niveau est-ce que tu acquiers, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu, qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que tu n'as pas eu? Qu'est-ce que tu as réussi à avoir et qu'est-ce que tu as commencé à échapper? Et Jésus dit, il va y avoir des gens partout autour de vous que c'est leur seule poursuite. Leur seule passion va être pour les choses matérielles. Mais vous, sachez que Dieu veut rencontrer ses besoins dans vos vies. Mais vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Car là où est ton trésor, là où sera ta passion, là où sera ta poursuite, là où sera ta priorité, là aussi sera ton cœur. Et le mot cœur ici, cardia, d'où nous trouvons l'expression cardiaque, c'est Jésus qui dit littéralement, c'est toi qui dois choisir à chaque jour qu'est-ce qui va faire battre ton cœur. Et si tu choisis que ton cœur, ta passion, tes pensées, tes énergies, tes forces sont entièrement vers tout ce qui est hors Dieu, matériel, choses de ce monde, de cette terre, mise les choses à la bourse, les investissements, la job, le travail, les choses, les bebelles, les maisons, la course des voitures, la course des autos, la course des vêtements et tout le reste. Si tu mets ton cœur, si tu mets ton cardia là-dessus, il y a du tourment. C'est pour ça que les sociétés nord-américaines dans lesquelles nous évoluons, qui sont les plus riches du monde, sont aussi les plus tourmentées. Les plus angoissés, les plus apeurés, les plus inquiètes, leur cardia bat à une poursuite. Et Dieu appelle un chrétien, une chrétienne, c'est chacun d'entre nous ici, il dit la première étape pour arriver à un endroit où tu vas retrouver un chemin de paix, tu vas être guéri de peur, de phobie, d'angoisse, de crainte et de toutes ces choses-là qui te terrassaient, de ces choses-là qui te guettent partout autour de toi, c'est à chaque jour, cette décision à chaque jour de dire « mon cardia ». Mon battement de cœur, j'ai une confiance que Dieu se donne. Dieu va revêtir, Dieu va combler. Dieu sait que j'ai besoin de ces choses-là. Dieu se préoccupe de ces choses-là pour moi. Mais moi, ma poursuite, suivez-moi bien, ma poursuite va être pour les choses qui ne peuvent jamais fluctuer, qui ne peuvent pas m'être enlevées. Mon cœur va battre pour le royaume de Dieu, car c'est là que ma paix demeure, car rien ne peut m'être enlevé. Est-ce que quelqu'un pourrait dire oui? On parle de d'un cœur qui bat. Et sans ce cardia, il y a la vie chrétienne en période de récession, la vie chrétienne lorsque les temps sont difficiles, est un moment où souvent révèle les cœurs des chrétiens. Des personnes qui viennent à l'église une fois par semaine, mais toute leur cardia, leur vie, leur cœur bat toute leur vie pour ce qui est matériel, pour tout le reste, au détriment d'une négligence totale de tout ce qui est Dieu. Et lorsque le matériel commence à être ébranlé, toute leur marche avec Dieu, toute leur paix, tout leur état intérieur est secoué. Dieu dit, il y a un prix, il y a un tourment, il y a une inquiétude, et je vous dirais ceci, il y a un brouillard, il y a un aveuglement, si tu permets à l'inquiétude de faire son œuvre en toi. Et si celui qui ne poursuivra pas Dieu entièrement va marcher dans le brouillard. J'étais intéressé de lire cette citation, cette image-là du brouillard. Je vous le dis parce que je l'ai vécu, et parce que comme pasteur, j'ai vu tellement de gens que lorsque l'inquiétude d'un chrétien, lorsque l'inquiétude le prend et la grippe, ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus la bonté de Dieu, ne voit plus les bénédictions de Dieu, ne voit plus la fidélité de Dieu passer. C'est comme si il est dans le fog, il est dans un brouillard. C'est pour ça que le psalmiste dit, « Seigneur, tu es la lumière à mon sentier. Le Seigneur est ma lumière et c'est pour ça que je n'ai plus crainte. » Il y a un brouillard d'aveuglement terrible. Tu ne vois plus tes bénédictions, tu ne vois plus la fidélité de Dieu, tu ne vois plus ce qu'il a fait pour toi auparavant, tu ne vois plus tout ce que Dieu a fait et qu'il peut faire encore, tu es dans le brouillard. Et cette citation-là m'avait intéressé, citation d'un rapport d'un scientifique du Bureau of Standards and Crisis de Washington, D.C. C'est un rapport sur un brouillard qui est arrivé à Washington, sur une nappe de brouillard qui avait causé des millions en dommages et en perte de vie. Et le rapport, je vous cite mot à mot, disait, ça avait été cité dans le Time Magazine, « Un dense brouillard étendu sur une distance de 7 rues de la ville, 7 city blocks. » Et avec une épaisseur de 30 mètres et composé de moins qu'un seul verre d'eau divisé en 60 000 gouttelettes. Pas grand-chose, pas imposant, mais paralysant une communauté entière. Tu mets la bouteille, passe à Jean. Lorsque ce brouillard, que le scientifique qui dit, le brouillard qui avait paralysé 7 blocs, une ville entière qui est paralysée, qui ne voit plus rien, c'était moins qu'un verre d'eau. C'était juste ces 60 000 petites gouttelettes. C'est pas grand-chose, mais une communauté entière est paralysée. Je vais vous dire que c'est ça, les inquiétudes. Il y a des gens qui sont ici en ce moment pour des choses qui en fait... Moi-même, en prendre une gorgée, si ça ne dérange pas, pendant une seconde. Merci. Il y a des gens qui sont ici en ce moment, vous êtes dans le brouillard. Ce qui se passe, ce qui arrive, ce qui vous tourmente, ce qui vous inquiète. Savez-vous que même la racine en anglais, le mot worry, le mot inquiétude vient d'un mot allemand, vient du mot allemand wirgen, qui veut dire littéralement étrangler, étouffer. L'inquiétude te met dans un brouillard. L'inquiétude t'étouffe. C'est quelque chose que nous, on regarde à l'extérieur, on dit, ben non, voyons, c'est quelques gouttes d'eau. Arrête, tu peux passer à travers ça, mais toi, tu es dans le brouillard en ce moment. L'inquiétude est en train de t'étouffer. Il y en a qui connaissent ici même physiquement comment l'inquiétude amène une crise de panique, une crise d'angoisse que littéralement « worry »
Ouïga.
Je suis en train d'étouffer. Et Jésus dit, la première étape pour cette libération-là, que le brouillard lève et que l'étau se desserre sur ton cou, c'est la poursuite de moi, la recherche de moi, la recherche de mon royaume, de ma présence, de qui je suis à chaque jour. Et à chaque jour, et je vais te montrer comment dans un instant, si tu entres dans ce chemin-là, l'étau peut s'enlever, le brouillard va se lever et qui Dieu est peut venir apaiser ton cœur. Quelqu'un devrait dire oui. Cette dimension de chercher Dieu. Jésus nous dit que cette recherche de Dieu, Jésus enseigne que le choix de la recherche de Dieu nous permettra de vaincre la peur. Et le dernier texte de la matinée, en Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul va nous montrer comment rechercher Dieu. Jésus dit, il y a une recherche de Dieu, première étape, on vous apprend tout le reste par la suite, mais une première étape, c'est cherche d'abord le royaume. Il y a une recherche de Dieu au quotidien qui apaise. Et l'apôtre Paul va vous enseigner comment. Tournez avec moi dans vos Bibles, tout le monde amenez vos Bibles, et prenez vos Bibles en ce moment, et allez avec moi à Philippiens chapitre 4. C'est le dernier texte de l'avant-midi. Nous allons voir ensemble comment l'apôtre Paul, lui, va nous enseigner comment rechercher Dieu. Et la crédibilité de l'enseignement fondationnel, la crédibilité du principe que je vais donner ce matin repose énormément sur l'auteur et l'expérience de vie avec Dieu et son auteur. Dans un instant, on va lire la formule, le plan de Dieu, le plan de la parole de Dieu pour une première étape pour vaincre les peurs, les angoisses. Et la première réflexe moderne que vous allez avoir va être de trouver ça simpliste. La première étape que vous allez avoir comme réaction, c'est de dire, celui qui me dit ça, là, c'est donc quelqu'un qui... Tu ne sais pas ce que je traverse. Tu ne connais pas ma situation. Moi, dans quelques instants, je vais vous lire le texte qui dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Combien d'entre vous, ça vous est déjà arrivé de vous mentionner à quelqu'un autour de vous, épouse, époux, avec quelqu'un autour de vous, une situation super grave qui vous bouleverse et vous inquiète, puis la personne vous répond quelque chose du genre, « Mais inquiète-toi pas. Inquiète-toi donc pas. » Combien d'entre vous, lorsque la personne vous dit ça, vous dites, « Ah, pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Wow! Pouf! Brillant! Ça me fait tellement bien que tu me dises ça. J'aimerais bien que tu me... As-tu une petite chanson avec ça? J'aimerais bien même que tu me le dises trois fois par jour parce que ça fait des miracles dans mon... » Combien d'entre vous, ce n'est pas ça qui vous arrive? Ça sent le cliché. Ça sent le cliché. Puis vous avez tout de suite une réaction. « Tu comprends pas. Laisse faire, si tu savais! » Attention. Parce que ce qui donne la puissance à l'enseignement de Paul et à ce texte extraordinaire que je vais vous lire dans un instant et que le Saint-Esprit lui a donné pour vous et pour moi, c'est qui il est. Jésus a dit, ça commence avec une recherche, et Paul dit, le Saint-Esprit a dit à Paul, à travers les expériences de ta vie et mon onction et mon inspiration, je vais maintenant te donner pour le peuple de Dieu jusqu'en 2009 le comment. Comment est-ce qu'on recherche Dieu, qui est un concept qui peut être si vague et qui peut être si... Comment est-ce qu'on recherche Dieu? L'apôtre Paul, vous avez besoin de comprendre lorsqu'on lit Philippiens, pas tout le monde ici qui connaît le contexte de Philippiens. L'apôtre Paul, un apôtre converti qui est juif et qui est allé à travers l'Europe et qui est arrivé dans des communautés où il n'y a rien, où il n'y a aucune église, où il n'y a personne qui le connaît. Et littéralement, en allant dans un temple ou en parlant dans la rue de pays, de ville en ville en ville à travers l'Europe et jusqu'en Turquie, allait arriver dans une ville seul et disait, vous avez un système de pensée qui est là depuis des millénaires, vous avez des croyances depuis des millénaires. Moi, je viens vous annoncer qu'il y a un seul chemin entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et se mettait à communiquer Jésus-Christ d'une manière totalement incompréhensible et inexplicable. Des hommes et des femmes saisis par le Christ ressuscité touchaient, leur vie était touchée, acceptaient le Seigneur, des églises étaient ainsi mises sur pied et le christianisme est né à travers le monde de cette façon. Et l'apôtre Paul, c'est ainsi qu'il est arrivé dans la ville de Philippe et qu'il a implanté l'église. C'était une ville particulièrement violente, hédoniste, immorale et il a implanté toutes ces églises et après qu'il les a implantées, l'apôtre Paul était en route pour retourner à Jérusalem et il a été averti de ne pas y aller. Le Sanhédrin cherche à t'avoir. Ils veulent avoir ta peau. Ils veulent te mettre à mort. Le pouvoir religieux voulait le mettre à mort. Et il y retourne parce qu'il se sent dirigé par Dieu d'y aller. Et là, il est battu par une foule hystérique. Vous trouvez ça dans les Actes. Il est battu par une foule hystérique. Il est battu, il est fouetté. Il est laissé presque mort à la porte de la ville. Il est presque mort. On pense qu'il est mort finalement. Il se relève et il est battu. Et une autre fois, alors qu'il entre dans le temple, la foule vient pour s'emparer de lui. Alors, on le met sous arrestation pour le mettre en prison et le faire envoyer, le mettre en prison pour se débarrasser de lui. Il lui dit, je ne suis pas seulement un juif, je suis un citoyen romain. Alors qu'il dit qu'il est un citoyen romain, ça change la donne. Et ça, maintenant, il faut que tu sois sous la loi romaine. Alors il dit, toi, on va t'envoyer en prison à Rome. Alors qu'il est en route, après avoir été presque laissé pour mort aux portes de la ville, après avoir été roué et fouetté, alors que maintenant, il embarque sur un bateau pour s'en aller vers Rome, il frappe dans les Actes des Apôtres, il est pris dans une tempête sur la Méditerranée pendant 2 semaines, les chaînes aux pieds dans le fond, en fond de cale, et finalement, il devient naufragé, et alors qu'il est naufragé, il va passer 3 mois enchaîné un soldat romain, et finalement, on va l'amener à Rome. Et pendant 2 à 3 ans, il est emprisonné à Rome, et c'est là qu'il va y finir sa vie. Et c'est là, alors qu'il est emprisonné, alors qu'il a tout perdu humainement, alors que ses rêves, alors que tout autour de lui lui crie d'avoir peur. Parce que finalement, à Rome, régulièrement, l'apôtre Paul pouvait voir des gens qui étaient prisonniers comme lui, sans façon, mais d'une manière brutale, violente, et d'une manière qui était extrêmement cruelle. Les Romains prenaient ce type de prisonniers, et un jour disaient, viens-t'en, tu t'en viens prendre une marche avec nous, prenaient une marche avec eux quelques kilomètres en dehors de la ville et les décapitaient. Et c'est comme ça que les historiens nous disent que l'apôtre Paul a terminé ses jours. Et à chaque jour, alors qu'il voyait et entendait parler de ceux qui étaient amenés hors de la ville ainsi, il savait que c'est ce qu'il attendait. Si vous lisez Philippiens, il y a des moments dans Philippiens où il parle. « Mon heure va sonner, je sais. » Et c'est alors qu'il est là, démuni, dépourvu de tout. Il n'a plus rien. Et tout autour de lui, il lui crie « Aie peur !» Sois terrorisé, mets Dieu en doute. Il n'y a plus rien qui va arriver. L'Esprit de Dieu... Alors qu'il recherche Dieu dans sa cellule, l'embrase, le fortifie, le remplit, le libère. Et Paul se met à écrire à ses églises. Et le Saint-Esprit dit, à partir de cette expérience, à partir de ton témoignage, à partir de la paix absolument inexplicable que tu as vécue, tu vas enseigner à mon peuple comment trouver la paix. Il nous donne 4 étapes dans notre texte qu'on va lire comme dernier verset ce matin, un texte que vous connaissez bien. Dans Philippiens, où il dit « Réjouissez-vous toujours », chapitre 4, verset 4 du Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, je vais vous dire à voix haute, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, supplications et actions de grâce. » Verset 7, chapitre 4. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. 4 étapes. Comment rechercher Dieu? Comment est-ce qu'on recherche Dieu? Comment est-ce qu'on cherche? Comment est-ce qu'on prie Dieu en 2009? Comment est-ce qu'on recherche Dieu pour trouver la paix, pour trouver le chemin de la paix, pour vaincre la peur, les craintes, les angoisses, pour trouver une paix que humainement je ne suis pas capable de trouver? L'apôtre Paul dit « Ah! » Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il dit, réjouis-toi dans le Seigneur. C'est un concept que certains d'entre vous disent, je ne trouve pas ça pratique, je ne trouve pas ça réaliste. Comment est-ce que tu peux toujours te réjouir dans le Seigneur? Pourtant, c'est un concept, réjouis-toi dans quelque chose qu'on comprend très, très bien. Si je dis à quelqu'un qui, tout le monde ici a vécu des moments où un événement ponctuel est limité, ce n'est pas difficile de se réjouir là-dedans. Tous les hommes et femmes aussi, mais tous les hommes ou femmes qui sont ici, lorsque tu t'achètes une auto neuve, puis tu es dedans, puis il y a quelque chose, elle sent quelque chose en dedans, puis je te dis, réjouis-toi dans ton auto neuve. Vous dites, oui, il y a des hommes qui sont ici qui ont fait des fous d'eux-mêmes. Ils regardent par la fenêtre le soir, ils frottent, ils sont assis dedans, tout seul, dans ce temps. Réjouis-toi. Si je dis, réjouis-toi dans le fait que ton patron t'a appelé alors qu'il y avait des mises à pied, puis tu es rentré dans le bureau vendredi, et tu pensais que c'était pour être une mise à pied, puis finalement, ça a été une promotion. Pas d'augmentation, réjouis-toi là-dedans. Comment d'entre vous comprenez ce que je veux dire? Tu fais juste y penser, puis wow! Hey! Tu arrives à la maison, puis ta femme dit, qu'est-ce que t'as, toi? Imagine-toi ce qui vient de m'arriver. Réjouis-toi dans une promotion. Je dis, réjouis-toi parce que tu as fait l'équipe. Réjouis-toi parce que tu as gagné. Réjouis-toi parce que dans une relation, il y a quelque chose de merveilleux qui est arrivé. Réjouis-toi. On comprend cette dimension-là, mais l'apôtre Paul dit, la première étape, c'est à chaque jour d'apprendre à te réjouir dans le Seigneur. Parce que toutes les autres choses, tout le monde y s'est vécu, elles viennent et elles partent. et la bagnole qui t'avait donné tant de joie, ou le sac de golf, ou la paire de souliers, madame, ou la sacoche, ou n'importe quoi, ou le voyage, ou n'importe quoi qui, sur le moment, te donnait un élan. Tout le monde y s'est vécu à quel point ces choses-là sont éphémères, à quel point elles passent, à quel point la joie disparaît. Mais l'apôtre Paul dit, il y a une clé, il y a quelque chose qu'un croyant peut faire à chaque jour, peut s'arrêter à chaque jour. Il dit, Seigneur, je veux me rappeler, je veux revenir vers toi. Ça demande de fermer la télé. Ça demande de ne pas passer 50 heures par semaine à te nourrir des immondices de la télé, des vidéos, et de passer à peine 90 minutes, deux, trois fois par mois à l'église, le reste du temps, de te noyer dans ce qui t'angoisse. Mais ça demande à chaque jour ce moment de s'arrêter, de dire, Seigneur, je veux m'arrêter pour me réjouir en toi, ton pardon, ta grâce, ton amour, ta fidélité, tes promesses. Tout ce qui ne fluctue jamais, ne change jamais, ne peut pas m'être enlevé. La première étape, j'apprends à me réjouir dans le Seigneur. Combien d'entre vous ici, vous avez des raisons de vous réjouir dans le Seigneur? Réjouis dans le Seigneur. Deuxième étape, chaque jour, réjouis-toi dans le Seigneur. Et deuxièmement, rappelle-toi que tu as une responsabilité envers les gens autour de toi. Comment est-ce qu'on recherche Dieu pour vaincre nos peurs? Rappelle-toi que tu es appelé à refléter la paix de Dieu. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et au verset 5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. L'apôtre Paul dit, lorsque tu traverses tes épreuves, des choses qui sont insécurisantes, des choses qui te font peur, ne permets pas ces choses-là d'affecter comment tu traites les gens autour de toi. C'est le mari qui est inquiet à cause de son ouvrage, mais c'est ses enfants qui payent la note. Il est rendu qu'il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de joie. L'apôtre Paul dit, dans les moments d'épreuve, que ta douceur, que ta paix, puis il dit littéralement à quelqu'un qui est en prison, il dit, ce n'est pas juste du chiquier, ce n'est pas un speech que je vous fais. Moi, j'ai tout perdu. Moi, j'ai toutes les raisons d'avoir peur. Mais je vous dis que ma vie, que qui je suis, que ce que vous voyez en moi devienne un message pour vous, que quel que soit ce qu'il y a autour. Je dirais ceci, qu'une des motivations profondes pour dire, Seigneur, je dois te rechercher, je dois aller chercher ta paix, c'est que je ne vis pas pour moi-même. Il y a trop de chrétiens que leur attitude, leur sourire, leur bonne humeur, leur foi, leur louange est directement conditionnelle à leurs circonstances. Si la vie est bonne pour moi, moi je suis bon avec le monde qui m'entoure. Si la vie est fine envers moi, moi je suis fin avec les gens qui m'entourent. Il y a un christianisme, il y a une vie disponible où tout le reste est secoué autour. Il y a des papas, des mamans, des maris, des femmes. Il y a des épouses qui sont ici, des épouses qui sont, des maris et femmes qui sont ici. Que depuis que la récession a commencé, depuis qu'il y a des baisses, depuis que les investissements ont baissé, il y a une atmosphère qui a changé dans la maison, il n'est plus le même, ne sourit plus, il n'y a plus rien qui est le même. Parce que, et même si on vient à l'église et on dit, Seigneur, prends tout, Seigneur, ma joie a disparu lorsque le pourcentage a baissé sa feuille. L'apôtre Paul dit, j'ai quelque chose de plus pour vous. Vous pouvez être branchés en Dieu. Et moi, j'ai un témoignage à donner à mes enfants. J'ai un témoignage à donner aux gens autour de moi. Et dans mon épreuve, Seigneur, je veux que ma douceur, je veux que mon calme, je veux que ma joie, je veux que ma vie demeure un modèle pour ceux qui sont autour de moi. Quelqu'un va dire oui. Il dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Rappelle-toi ta responsabilité de refléter la paix que Dieu donne aux gens autour de toi. Et la dernière étape pour ce matin, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec prière, supplication et action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une... Si vous ne comprenez pas la profondeur de ce verset-là, vous pouvez même en être offensé comme si c'était un cliché. Parce que s'il y a une chose qu'on trouve cliché et qui nous irrite, c'est lorsqu'on passe un temps difficile, quelqu'un qui nous dit « inquiète-toi donc pas » ou un chrétien qui nous dit « ben prie ». La pensée que... Je vous ai entendu penser il y a quelques minutes, il y a quelques instants, que j'ai lu ça. Vous dites que si tu dis, Pasteur Claude, que le remède pour l'inquiétude, c'est la prière, juste la prière. L'apôtre Paul ne vous laisse pas là. Il parle d'un type de prière qui est très, très différent de ce que beaucoup d'entre nous avons, beaucoup d'entre nous nous sommes limités jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, avec des supplications, avec des actions de grâce, mais l'expression, faites connaître vos besoins. Traduit comme ça en français, dans le grec, parle de quelque chose de différent. L'apôtre Paul dit, les prières 911 ne sont pas suffisantes pour amener la paix. Connaissez-vous, c'est quoi une prière 911? C'est une prière d'urgence, ça va mal. Vous avez tous vu au mois de janvier, il y a des photos qui vont apparaître à l'écran, au mois de janvier, il y a un avion qui est parti de la Guardia, et puis ils ont frappé un banc d'oiseaux, Ils ont été forcés de revenir sur leurs pas. Ils ont été forcés de revenir et ont fait un atterrissage dans le Hudson, US Airways, le vol 1549, le 15 janvier 2009. Ils s'en allaient vers Charlotte, en Caroline. Et puis, lorsque l'avion a retourné, ils sont venus, ils s'en allaient pour un crash dans le Hudson. Et le capitaine Sully est devenu un héros national. Et moi, j'ai vu une interview à CNN avec Sully et tout l'équipage qui a tout expliqué ce qui s'est passé de manière magistrale. Ils ont réussi à atterrir et personne n'a été blessé. Ils sont venus les sauver. Et ils ont demandé qu'est-ce qui se passait dans l'avion. Là, tu m'expliques ce qui s'est passé dans la cabine, mais qu'est-ce qui se passait dans tu m'expliques ce qui se passait comme pilote, mais il a demandé aux stewardess, qu'est-ce qui se passait aux hôtesses, qu'est-ce qui se passait dans l'avion pendant que le capitaine a dit, on tourne de bord, on est en train, les moteurs sont tentés de couper, et on fonce vers l'Hudson. Qu'est-ce qui se passait dans l'avion? Et la dame a dit, les gens priaient. Puis moi, j'ai dit, si tu peux être sûr qu'ils priaient. Croyez-moi que le capitaine n'a pas besoin de dire, attention, attention. Nous n'avons plus de moteur, nous retournons, nous ne pouvons pas atterrir, on s'en va dans la rivière et il serait suggéré de prier. Il n'y a pas eu besoin de faire ça, croyez-moi. Tout le monde s'est mis à prier. Tout le monde qui ne parlait pas à Dieu depuis longtemps ne savait même pas comment l'appeler. Toi, en haut, être supérieur, les mondes se sont mis à frotter les petites roches puis à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Tout le monde s'est mis à prier. Ça, c'est prière 9-1. Ça, c'est faire que « Ah! Aide-moi! » Il y a beaucoup de chrétiens, parce que il n'y a aucune stewardess qui a dit qu'une fois qu'ils ont atterri, que ces gens-là, par la suite, ont continué avec une marche avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la paix, parce que la seule prière qu'ils connaissent, c'est Dieu, fais ça, aide-moi, sauve-moi, fais-moi garder ma job, trouve-moi une nouvelle job, occupe-toi de ça, vends ma maison, fais-moi acheter une maison, aide-moi avec ceci, aide-moi avec mon enfant, aide-moi avec ceci. Et on envoie Dieu presque comme notre serviteur, comme va garder ça, Seigneur, va garder ça, va garder ça, va garder ça, va garder ça. Il y a des gens qui, leur vie entière chrétienne, ont ce genre de prière de surface toute leur vie, ils ne trouvent jamais une paix. L'expression « faire connaître », si vous la saisissez ce matin, peut changer votre vie. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais voici comment. Il y a une façon d'arriver à un état de paix que le monde ne connaît pas. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et faire connaître, dans le grec, nourizo, ginosko, veut littéralement dire faire connaître la plus profonde forme de communication entre deux personnes. Je m'adresse à des adultes ce matin. Dans le langage juif du Nouveau Testament, ce mot-là est utilisé pour décrire une relation sexuelle entre un homme et une femme. Se connaître quelqu'un. Vous savez, quand vous lisez dans l'Écriture, il connut sa femme. Je suis entré en intimité, je suis entré en relation, puis c'était un mot qui avait deux connotations. La plus profonde forme de communication de deux personnes et la plus profonde présentation d'une situation. C'était un mot de cours, de salle de cours. Lorsqu'il y avait eu un procès et puis qu'il y avait eu un jugement qui avait été donné rapidement, si tu allais en cour suprême, en cour supérieure, quelqu'un passait des années à aller en profondeur dans un dossier, à aller en profondeur et à dire « maintenant je reviens et je m'en viens présenter, je m'en viens faire connaître ce qui s'est vraiment passé. » Suivez-moi bien. L'apôtre Paul dit « voici comment vous avez trouvé la paix. » De ne plus aller vers Dieu et dire seulement « garde ci, garde ça, Seigneur, fais ci, fais ça, Seigneur, ci, Seigneur, ça, ça. » Viens devant le Seigneur et entre en communion avec lui. En québécois, on dirait, dis-lui les vraies affaires. Ce n'est pas seulement, Seigneur, touche mon fils, il ne va pas bien. Mais dis, prends du temps et dis, Seigneur, voici ce que ça me fait quand je regarde mon fils. Voici ce qui m'inquiète, voici ce qui me fait peur. Fait que, Seigneur, je t'amène devant moi, je te fais connaître, deep. Calling unto deep. Des profondeurs de mon cœur, je ne te dis pas juste, Seigneur, va le garder, fais ci. Seigneur, je te prie pour mon emploi. Pas seulement dans mon job, mais voici comme père de famille ce que ça me fait, Seigneur, de ne pas pouvoir à ma famille. Voici ce que ça me fait, voici ce qui m'inquiète. Voici, Seigneur, ce que j'ai peur qui m'arrive. Lorsque vous dites, Seigneur, aide-moi dans cette situation-là. Et lorsque vous allez faire connaître à Dieu en lui, les profondeurs de votre cœur, lui va vous faire connaître sur vous-même ce que vous ne savez même pas. Il y a plein de gens qui font leur vie chrétienne entière avec des prières superficielles et ils ne changent jamais, ne trouvent jamais la paix parce qu'ils n'admettent jamais à Dieu ce qui leur fait vraiment peur. Pas seulement dire, Seigneur, arrange cette situation avec cette personne-là. De dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles sont les insécurités en moi? Quelles sont les peines en moi? Qu'est-ce que j'ai? Seigneur, je viens. Et lorsque tu mets, littéralement, tu entres en communion, tu entres en communion avec Dieu. Et qu'au-delà de la surface, tu fais connaître à Dieu, voici ce qui m'inquiète vraiment. Seigneur, je te prie pour mon mari, voici ce qui m'inquiète. Je te prie pour mon couple, voici ce que je vis, voici ce que j'ai besoin, voici ce qui ne va pas bien en moi. Lorsque, vous comprenez que lui faire connaître, ce n'est pas lui donner de l'information. On ne peut rien faire connaître à Dieu qui sait déjà. Est-ce que vous me suivez? C'est pas que vous dites, Seigneur, je te laisse savoir que tu dis, oh, c'est moi, une chance, tu me l'avais dit, je n'avais pas vu ça. Non, non. C'est entre en communion. Et je peux te dire ceci? Lorsque tu commences à y aller cœur à cœur profondément avec lui, ça amène à une prière différente. Tu ne peux pas faire ça. C'est bien de prier dans ton auto, c'est bien de prier sur le pont Jean-Cartier, c'est bien de prier à deux minutes ici et là, toutes sortes de places que vous priez. C'est tout correct, ces places-là. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus profond. Dans les jours dans lesquels nous vivons, si tu veux vraiment trouver la paix, il y a une décision qui doit être prise, décision de qualité que des chrétiens de longue date n'ont jamais pris, certains d'entre vous, de dire « je m'arrête ». À chaque jour, il va y avoir un moment, il va y avoir un lieu, il va y avoir une pièce, il va y avoir un moment, le matin, le midi, le soir, je m'arrête avec Dieu, puis je vais parler à Dieu. Je vais vous montrer comment dans les prochaines semaines, mais je vais lui ouvrir véritablement mon cœur. Et lorsque tu lui dis pas seulement « fais ci » ou « fais ça », puis tu n'en vas pas juste garder toutes tes affaires. « Seigneur, va garder ceci. Seigneur, va garder cela. » L'apôtre Paul dit « si tu fais connaître à Dieu tes besoins avec prière, supplication et action de grâce, puis tu n'en vas pas juste garder ailleurs, c'est lui qui va venir garder ton cœur. Il va venir protéger ton cœur, apaiser ton cœur. » L'expression « garder » ici, c'était comme une garnison. C'est une ville qui avait été mise sous attaque, et lorsque la garnison arrivait, il l'entourait au complet. Il n'y a plus rien qui pouvait l'attaquer. Elle était en sécurité. Elle ne pouvait plus perdre rien. Elle était protégée. Et Dieu dit, je te dis, je t'appelle à une profondeur avec moi. Commence cette semaine, commence cet après-midi. Commence à venir devant moi, à me parler, à venir en ma présence, à me dire les vraies affaires. Et tu vas voir comment ma paix va calmer, apaiser. Puis je vais devenir le garde de ton cœur, de tes émotions. Ça fait 2000 ans que je le fais dans des millions de personnes. Et je vais le faire dans ta vie à toi aussi. Et que ceux qui le croient le reçoivent ce matin, disent un dernier grand amen. Pendant que les musiciens s'approchent, pas seulement l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, il y a une photo, la dernière photo du diapo, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle apparaisse à l'écran d'un ami que j'ai connu au Burundi, Jean-Baptiste, l'homme avec la chemise blanche qui est avec moi, qui est au milieu, puis à côté, c'est un policier new-yorkais qui était venu avec nous au Burundi. L'homme à la chemise blanche, Jean-Baptiste, qui a connu le génocide, qui a connu d'être amené dans un camp de réfugiés, de voir de ses yeux presque sa famille entière être massacrée à la machette sous ses yeux. Alors qu'il avait 16-17 ans d'être amené dans un camp de réfugiés où il a passé presque 2 ans, où les montagnes de vidange, d'étritus étaient partout autour de lui. Quand j'ai connu cet homme-là, je ne savais rien de lui, excepté que c'est un jeune homme, il était notre traducteur, excepté qu'il y avait une onction qui était sur lui qui me faisait presque pleurer. La joie de cet homme-là, pourtant on était au Burundi, mais il y avait une joie sur cet homme-là qui était comme s'il était au-dessus, une joie profonde, une joie de vivre, pas une joie mystique et bizarre, juste une paix, une joie. Il était nouveau marié, et puis il nous parlait de son épouse, et puis il y avait une joie, puis partout ce qu'il y avait, il y avait cette joie-là. Et un jour, alors qu'on mangeait ensemble, il m'a raconté ce témoignage. Il s'est retrouvé arraché à sa famille, ils l'ont pris de leur école, à l'endroit où on est là, à Gitega, j'ai déjà raconté ici. C'est un endroit, ils ont mis un monument, il y en a partout dans le pays, un monument blanc qui dit « plus jamais ». Parce qu'à Gitega, il y a une école qui est là où le professeur d'école s'est levé un matin, puis elle dit « faites demander aux enfants, combien d'entre vous appartenaient à la tribu de… » Puis elle dit le nom de la tribu qui était victime. Il y a une quarantaine d'enfants qui ont levé leurs mains. Il a dit « venez avec nous les enfants, c'est leur professeur qu'ils avaient depuis des années. » Ils les ont amenés dans un autobus. L'autobus les a amenés à une station d'essence. C'est là qu'on est devant la station d'essence. Ils ont pris les pompes à essence, ils ont couvert les enfants d'essence, ils les ont mis en feu, ils les ont brûlés, ils les ont tués, ils les ont massacrés. Lui a vécu ça, et un jour, les professeurs sont arrivés, puis c'est quelqu'un qui l'a sauvé, c'était l'inverse. Son professeur, il a dit, ils s'en viennent vous chercher. Il a dit à Jean-Baptiste et ses amis, vous allez vous mettre plusieurs, il leur a mis plusieurs morceaux de linge sur le dos. Des petits-enfants, jeunes et adolescents, ont commencé à marcher dans la rue. Il y en a qui se faisaient tuer, il y en a qui se faisaient assassiner. Lui, il a pris le bois, il a pris la forêt, est revenu, puis s'est retrouvé dans le camp de réfugiés. Et alors qu'il était là, puis il y a déjà de la malaria, de la maladie, tout ce que vous voulez autour de lui, puis il y avait des meurtres qui continuaient à prendre place. Cet homme-là m'a raconté comment, pour ses frères qui étaient dans le camp avec lui, qui étaient vivants, pour les gens qui étaient autour alors, qui étaient juste dans l'adolescence, il a commencé à tous les matins à aller, puis la seule place, il vivait dans des tentes ou à ciel ouvert, la seule place que je pouvais aller, je me mettais en arrière de la montagne de vidange, puis il s'accotait derrière la montagne d'immondices, puis commençait à parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez qu'à ce moment-là, il n'a pas dit des petites prières superficielles? J'ai juste commencé à dire, Seigneur, comme l'apôtre Paul dans sa cellule il y a 2000 ans, comme vous et moi, Seigneur, je m'approche de toi, je te fais connaître, je t'inquiète, j'ai peur, je suis blessé, je suis en morceaux, mais je viens à toi. Et l'apôtre Paul dit, si tu viens de cette façon-là, il y a quelque chose de surnaturel qui va arriver. La paix de Dieu, qui dépasse toutes circonstances, va venir et va garder ton cœur. Puis il dit, parce que là, on ne peut pas savoir le nombre de fois que je suis arrivé derrière, puis je pensais à me suicider, je pensais à mourir, je pensais que quelqu'un me tuerait. Puis d'une manière incompréhensible, inexplicable, debout devant une pile de vidange, alors que je criais à Dieu sous le soleil de plomb, tant qu'on avait juste un repas le matin, une assiette de grains le matin pour nous passer la journée lorsqu'on en avait une. Il y a quelque chose qui venait, puis vous pouvez penser que c'est quelque chose qui est même presque difficile à décrire. Mais lui, il disait que c'est comme, il y a des fois où je chantais comme des bras autour de moi. Je chantais mon cœur qui faisait ça, puis mon cœur qui... Puis il y avait des images, des fois j'avais mon cœur comme une tempête, tu voyais le Seigneur qui calmait la tempête. Puis d'une manière incomprenable, incompréhensible peut-être, mais il y a des pensées qui me venaient, je vais me sortir de ceci. Dieu a un témoignage pour moi, je vais fortifier mes... Puis je sortais derrière la montagne de vidange, puis je disais à mes petits frères, vous allez voir, Dieu va s'occuper de nous. Puis je faisais mes études bibliques, puis je m'occupais, puis je travaillais dans le camp. Et quelques années plus tard, alors que les organisations sont arrivées, ce garçon-là a été choisi, il a fait ses études, il a fait son baccalauréat. Aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, il a encore accès au Dieu qui est capable de donner la paix et de garder les cœurs. Il l'a fait pour Paul, il l'a fait partout à travers le monde, et il veut et il va le faire pour nous. Je déclare par la foi le mois d'avril, le mois de mai, mois de délivrance des peurs à l'Église Nouvelle Vie dans le nom de Jésus. Et ceux qui veulent le recevoir avec moi disent un dernier Amen. Penchez la tête pendant un moment ce matin. Seulement l'intro, on va continuer dimanche matin prochain. Il va y avoir des dimanches soirs qui vont accompagner ces dimanches matins. Des dimanches soirs de puissance, des dimanches soirs de prière, des dimanches soirs d'imposition des mains, des dimanches soirs où l'autorité du nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit va venir briser des chaînes dans vos vies. Et ça commence avec vous ce matin. Et l'appel que je vais faire, c'est si cet appel est pour vous, je vais vous demander, à mesure que je fais l'appel, juste de vous lever à votre place. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, je veux être cet homme, je veux être cette femme qui va poursuivre Dieu, dont le cardiaque, dont le battement de cœur va être pour Dieu. Et non seulement pour les choses de ce monde. Si vous êtes ici et vous dites, je veux être cette personne dont le cœur va poursuivre, va rechercher premièrement le royaume de Dieu, j'aimerais vous inviter à vous lever là où vous êtes à votre place. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, je suis cette personne qui a besoin d'une guérison, d'une peur. Juste une première pensée qui a été apportée ce matin. Pendant plusieurs semaines, nous allons bâtir dans les prochaines semaines et mois, et jeûner et prier. Pasteur Antoine et les équipes d'intercesseurs vont coordonner une intercession où il va y avoir toute la semaine des gens qui prient. Et dans des réunions spéciales du dimanche matin, du dimanche après-midi, on va venir et l'équipe de prière va être ici, on va vous imposer les mains, on va croire. Mais si vous êtes ici ce matin et vous dites, je veux être cette personne qui va être libérée d'angoisse, de phobie, de crainte, de peur, ce matin, j'aimerais vous demander de vous lever et de lever vos mains, vos cœurs vers Dieu et de dire, Seigneur, je viens à toi. Je veux être cette personne. Je veux être cette personne qui voit le brouillard se lever dans sa vie. C'est vrai ce que tu as dit. Je sais c'est quoi ce brouillard-là, l'angoisse. Je ne vois plus rien. J'étouffe. La main de Dieu va te libérer. Je veux être cette personne qui ne fait pas souffrir, qui ne fait pas pâtir, qui ne fait pas, qui ne néglige pas et qui ne fait pas du mal aux personnes autour de lui. Parce que moi, je pense quelque chose en ce moment, puis mon humeur, mon attitude, mes propos, mon air, mon visage, mon sourire qui a disparu à cause de ce que je traverse. Je veux que ma douceur soit connue par tous ceux qui sont autour de moi. Je veux que dans les moments de tempête, mon calme et le calme que Dieu me donne, la paix que Dieu me donne, va devenir un message, un espoir, va devenir une réflexion de qui Dieu est pour tous ceux qui sont autour de moi. Je veux faire connaître mes besoins à Dieu. Je veux lui parler comme je ne lui ai jamais parlé avant. Je veux lui dire, Seigneur, ce n'est pas juste fais ceci, c'est voici, Seigneur, qui me fait peur. Voici comment je me ressens si tu ne le fais pas. Voici ce qui se passe. Et de même dire, Seigneur, alors que du mieux que moi je peux, je te fais connaître mon cœur. Il y a juste toi qui peux me faire connaître ce qui se passe vraiment en moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et voici, je suis sur une mauvaise voie. Et alors tu me conduiras dans les sentiers de la vérité. Ce matin, je déclare par la foi que tu vas goûter, si tu es prêt,
Si tu veux, il y a quelque chose que je ne peux pas faire pour toi, tu dois prendre la décision. Je vais rechercher Dieu. Je vais rechercher Dieu. Je vais me rapprocher de lui. Je vais le chercher d'abord. Je vais déverser mon cœur, répandre mon cœur devant lui. La puissance, donc, si on l'appelle de l'Esprit, la capacité divine va venir te rencontrer à ton moment de décision dans ces prochaines semaines et mois. Ce n'est pas un geste extérieur légaliste. C'est une expression du cœur. Si vous êtes prêts, si vous sentez libre de le faire, j'aimerais inviter tout le monde à juste lever vos mains, vos cœurs vers Dieu et commencer à parler à Dieu pendant quelques instants. Dire, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, quand j'ai besoin, alors que les paroles vont apparaître à l'écran. Seigneur, quand j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'espoir, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix.
Quand j'ai besoin de paix,
besoin de compréhension.
Quand j'ai besoin de compréhension, oh Seigneur, tu es là.
Oh, j'ai besoin d'espoir.
Quand j'ai besoin d'espoir,
besoin de ta grâce.
Quand j'ai besoin de
grâce, besoin d'une autre chance.
J'ai besoin d'une autre chance.
Seigneur, tu es là.
Oh Seigneur, tu es là.
Encore une fois, déclarez-le par là. Quand j'ai besoin d'amour, chantez-le, priez-le avec moi. Allons vers Dieu.
Quand j'ai besoin d'amour,
quand j'ai besoin de paix,
quand j'ai besoin de paix,
j'ai besoin de compréhension, Seigneur.
Quand j'ai besoin de compréhension,
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.